DW. Info matin.
Bonjour et bienvenue à la matinale Afrique de la DW en ce lundi 3 mai 2021. Il est 7h en temps universel, 8h à Pala. C'est dans le sud-ouest du Tchad, 9h ici en Allemagne. Au micro, Eric Topona et Sandrine Blanchard. Bonjour Sandrine.
Bonjour. Dans l'actualité ce matin, le Tchad qui a un nouveau gouvernement de transition. Deux semaines seulement après la mort du président Idriss Déby Itno, plusieurs opposants font leur entrée dans ce cabinet.
Pendant ce temps, les blessés des manifestations de mardi dernier toujours leur plaie.
Au Niger, un troisième foyer djihadiste pourrait naître dans le sud-ouest du pays, selon International Crisis Group. Des réactions collectées sur place dans ce journal.
Nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. L'information comme bien public, c'est le thème de cette journée. Vous écouterez dans ce journal le porte-parole de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, Kemala Fayon, qui rappelle aux dirigeants africains leurs engagements.
Et puis le sport ce matin sera présenté par Ali Farad dans une 20 minutes.
Info matin, c'est d'abord, comme toujours d'ailleurs, le bulletin d'information ce matin présenté par Sandrine Blanchard.
Le nombre de nouvelles contaminations à la Covid-19 en baisse en Allemagne. Le gouvernement fédéral réfléchit à un assouplissement des restrictions pour les personnes vaccinées ou guéries du virus. La ministre de la Justice propose de supprimer les restrictions de sortie et de contact pour ce groupe de personnes dans toute l'Allemagne. Ce type de mesure existe déjà dans certains Länder. Des décisions devraient être prises dans la semaine. Et à titre de comparaison, en France, les restrictions de déplacement prennent fin aujourd'hui. Les collégiens et les lycéens retournent ce matin partiellement en classe.
Une bonne nouvelle. En Inde, en revanche, la situation sanitaire reste catastrophique.
Oui, l'aide internationale continue d'arriver pour livrer du matériel aux hôpitaux indiens qui sont dépassés par le nombre de morts. Une aide en provenance d'une quarantaine d'États. L'Inde a enregistré près de 400 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Elle est en tête des pays frappés par la pandémie avec le Brésil. Les morts dues au coronavirus ont fortement augmenté hier avec 3689 décès, ce qui porte le bilan total à plus de 215 000 morts en Inde.
Et puis Sandrine, des combats entre l'armée et les talibans, c'est en Afghanistan.
À en croire les autorités afghanes, plus d'une centaine de membres de la milice islamiste auraient été tués ces dernières 24 heures. Les combats ont eu lieu dans plusieurs provinces. Samedi, le retrait des 2500 soldats américains encore stationnés dans le pays a commencé. L'OTAN a annoncé le départ de tous ses soldats d'Afghanistan dans les prochains mois. Un naufrage au large de la Californie. Trois personnes sont mortes, 27 ont pu être secourues. L'embarcation surchargée transportait des migrants en provenance du Mexique. Ils tentaient de gagner clandestinement les États-Unis par la mer. Ils étaient plusieurs milliers à descendre hier encore dans la rue en Birmanie. Des manifestations contre la junte militaire qui a pris le pouvoir en février. Une faction rebelle de l'est du pays appelle d'autres insurgés à l'unité face aux militaires et espère, je cite, un printemps révolutionnaire. La police du Bangladesh annonce 25 morts au moins dans la collision de deux bateaux. L'accident s'est produit sur un fleuve dans le centre du pays. En Algérie, le président Tebboune appelle son gouvernement à ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux. Le chômage atteint près de 15% de la population active en Algérie. La hausse des prix, les pénuries de denrées de base entraînent une paupérisation massive. Tous les ingrédients sont là pour susciter une colère sociale qui monte. D'ailleurs, les grèves se multiplient dans les services publics. Le président appelle notamment à discuter avec les représentants de syndicats des secteurs de l'éducation et de la santé. Au Pérou, le candidat de la gauche radicale est largement en tête des intentions de vote pour le second tour de la présidentielle qui est prévu début juin. Pedro Castillo dépasse de 9 points la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. C'est la fille de l'ancien dictateur incarcéré Alberto Fujimori. Et enfin, une première dans le monde de l'entreprise en Allemagne, le laboratoire Merck est devenu ce week-end la toute première grande entreprise allemande à nommer à sa tête une femme. Il s'agit en l'occurrence de l'espagnole Belén Garijo. C'est encore dommage, Eric, qu'il faille que ce soit encore si rare pour qu'on soit obligé de le signaler.
Mais c'est déjà un bon début, hein. Il faut toujours commencer.
C'est un début, un petit pas. Espérons qu'on se mette à courir bientôt.
Et bonne chance quand même, hein, pour la suite. Allez, c'était le flash d'information présenté par Sandrine Blanchard. Alors qu'il est 7h05 en temps universel, 8h05 à N'Djamena, Moundou et Sar. Nous sommes au Tchad.
DW.
Au Tchad, donc deux semaines après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, la junte militaire au pouvoir dirigée par son fils Mahamat Idriss Déby a nommé hier soir un gouvernement de transition avec la reconduction des anciens membres du gouvernement. Plusieurs opposants font partie de cette équipe de 40 membres dirigée par Albert Paimi Padaké. Lui a été nommé il y a tout juste une semaine, Sandrine.
Et dans cette équipe, deux militants de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'UNDR, qui est le parti du principal opposant, Saleh Kebzabo. Ils occupent respectivement les fauteuils de ministre de l'élevage et de secrétariat général adjoint du gouvernement.
Oui, Saleh Kebzabo ne participe pas lui-même au sein de ce gouvernement, mais il a reconnu les nouvelles autorités de la transition. L'ancien chef rebelle Asher Ibn Oumar, qui était devenu en 2019 conseiller diplomatique du président Déby, a lui été nommé ministre de la réconciliation et du dialogue.
Et puis un autre opposant à Idriss Déby Itno, Mahamat Ahmad Alabo, le secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, le PLD, a été nommé ministre de la Justice. Le même avait dénoncé il y a moins d'une semaine la répression sanglante des manifestations contre la junte militaire par les forces de l'ordre.
Et les transformateurs, le parti de l'opposant Succès Masra, ne font pas partie de ce gouvernement d'union nationale.
Et pendant ce temps, de nombreux manifestants qui ont été blessés lors des marches pacifiques des 27 et 28 avril dernier, ils sont toujours hospitalisés. Certains manquent de sang pour les perfusions, de nourriture, de médicaments. Les initiateurs des marches appellent donc au soutien des personnes de bonne volonté. C'est ce que nous montre ce reportage à N'Djamena de notre correspondant sur place, Blaise Darieston.
Ils sont nombreux, les blessés victimes de la répression des marches pacifiques des 27 et 28 avril dernier, à être hospitalisés dans les établissements de santé à N'Djamena et des principales villes du pays. Dans Abézoua, la vingtaine en fait partie. Ce jeune, diplômé sans emploi, n'était pourtant pas allé manifester le 27 avril dernier. Assis devant la porte de la maison, le jeune homme a reçu une balle à la tête qui lui a arraché son œil gauche. Depuis, dans Abézoua, est soigné dans une clinique privée.
Là où je suis, ils m'ont carrément mis par terre. Je ne sais pas comment me relever. Une situation inimaginable. Tu restes devant chez toi et tu perds carrément ton œil. S'ils peuvent nous prendre en charge tous les victimes, je pense que ça peut un peu nous apaiser l'esprit.
Une autre manifestante, également blessée par balle et qui souhaite rester anonyme, dit ne pas comprendre l'attitude de la police et de l'armée face à des manifestants sans armes et sans défense.
C'est triste de voir des militaires censés nous protéger tirer sur nous. Notre marché était pourtant pacifique. Malheureusement, j'ai été blessée à la cuisse et couchée depuis une semaine. La communauté internationale doit agir pour éviter des massacres. Nous n'allons pas nous arrêter.
Les blessés sont confrontés à des problèmes de manque de sang ou encore de plateaux techniques capables de mener certaines interventions chirurgicales. Au moins, trois manifestants ont ainsi succombé à leurs blessures ce week-end. Jean-Michel Ndjerane est membre de la coordination du mouvement Wokitama, initiateur de ces marches pacifiques.
Parlant des blessés, nous avons plus d'une cinquantaine. Beaucoup de nos manifestants meurent par hémorragie interne. Aujourd'hui, au niveau de la coordination, nous essayons de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, notamment pour collecter du sang, pour venir au secours de nos frères qui sont en train de souffrir vraiment aujourd'hui à l'hôpital pour la cause que nous défendons tous.
À noter que certains manifestants blessés sont obligés de se cacher pour suivre des traitements, comme par exemple l'artiste rappeur Ice Kim, blessé par balle au genou le 27 avril dernier. Traqué dans les hôpitaux par les services de renseignement, il vit caché depuis quelques jours. Blaise Darius, ton N'Djamena, pour la Deutsche Welle.
Et je viens de l'apprendre avant d'entrer dans ce studio. Un des manifestants tués la semaine dernière par les forces de l'ordre sera inhumé ce midi à N'Djamena. A noter enfin une mission de la Commission de l'Union africaine séjourne depuis jeudi dernier à N'Djamena. Elle est chargée d'examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Pour l'instant, l'Union africaine n'exclut pas de prendre des sanctions contre le Tchad, mais craint les répercussions que celle-ci pourrait avoir sur l'engagement militaire du Tchad dans la lutte antiterroriste. Alors si l'actualité au Tchad avec la mise en place hier du gouvernement d'union nationale vous intéresse ou tout autre sujet d'actualité, c'est simple, vous pouvez donc aller sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Info Matin, il est 7h10 en temps universel et 9h10 à Gitega, la capitale politique et administrative du Burundi. Le président Évariste Ndayishimiye a limogé samedi la ministre en charge du commerce parce que, je cite, elle risquait de compromettre l'économie du pays et de ternir l'image du Burundi. Cette ministre aurait procédé à la vente illicite du dernier avion de la compagnie Air Burundi et détourné des fonds qui étaient destinés à équiper notamment en matériel informatique, la future compagnie aérienne Burundi Airlines.
Sandrine, vous parlez tout à l'heure de la promotion d'une femme en Allemagne. Or, au Burundi, c'est tout à fait le contraire. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, les réflexions sont axées sur le thème « L'information comme bien public ».
Et Kemal Afignon est le porte-parole de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, une organisation qui veut profiter de la célébration de cette journée pour rappeler aux dirigeants africains leurs engagements en matière de protection de la liberté de la presse. Kemal Afignon est interrogé par Fréjus Kenom.
Comme le disait Joseph Stiglitz, l'information est un bien public et en tant que bien public, elle a besoin du soutien public. C'est l'occasion pour l'UJPLA de rappeler donc que cette liberté est malheureusement et trop souvent encore bafouée sur le continent africain.
Vous avez souligné que la liberté de la presse est en souffrance dans certains pays du continent. Quelles sont les formes de difficultés qui sont mises donc aux journalistes professionnels ?
Quand il ne s'agit pas de pression politique, donc c'est parfois la pression juridique. Et ces poursuites sont aujourd'hui motivées par de nouvelles lois qui prennent corps au sein d'un écosystème de communication en mutation numérique dans lequel aujourd'hui la production de l'information est malheureusement soumise à des pressions, comme on a pu le voir dans de nombreux pays africains aujourd'hui.
Parlant toujours des contraintes, à l'occasion d'événements sensibles comme les élections, certains États prennent des mesures pour contrôler la diffusion de l'information. C'est comme au Tchad, où à l'occasion de l'élection présidentielle du 11 avril, les émissions interactives et les débats ont été interdits. Comment expliquez-vous cette réaction de certains États ?
C'est une réaction qui est quand même difficile à expliquer parce que quand on regarde par exemple le cas du Tchad dont vous venez de parler ou encore de pays comme le Bénin, donc par le passé, donc il y a eu déjà des expériences en matière de couverture des élections et justement cette presse en Afrique s'est illustrée de façon positive à travers les couvertures précédentes. Donc aujourd'hui, on aurait souhaité assister donc à une évolution en termes d'accompagnement des autorités, des instances de régulation justement du secteur, mais ce auquel on assiste, c'est une régression au niveau des pratiques de régulation qui sont mises en place.
Est-ce que les États ont peur d'une information non recoupée, d'une information qui n'est pas professionnelle ?
En partie, oui. Il y a justement cette peur. Mais comme je le disais aujourd'hui, la presse africaine a quand même fait un bon bout de chemin. Donc au fil des ans, au fil du temps, c'est une presse qui se professionnalise davantage. Mais au regard du cadrage qui est fait, on peut craindre justement qu'on soit en train de recourir à des pratiques rétrogrades, en fait.
Voilà, c'était Kemal Afignon, le porte-parole de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, qui s'exprimait donc à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Kemal Afignon répondait aux questions de Fréjus Kenom. Son histoire a inspiré une série au Loturé, un Toboré au Viori, et la lauréate du prix de la liberté d'expression 2021 de la DW. Le travail d'infiltration dans les réseaux de prostitution au Nigeria de cette journaliste d'investigation a donné une voix à celles et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer au sein de la société nigériane, Sandrine.
Oui, mais ce courage de Toboré Ogbuori lui a coûté presque la vie. Son portrait est signé Marie Sina et Carole Assignon.
Lorsque Toboré Ogbuori raconte son expérience d'il y a 7 ans, ses yeux se remplissent encore de larmes. La journaliste d'investigation, alors âgée de 33 ans, s'était infiltrée dans les cercles de trafic sexuel du Nigeria pendant 7 mois. Ses reportages ont mis en lumière les réseaux criminels impliqués dans la prostitution, le trafic d'êtres humains et d'organes. Marquée par une injustice durant son enfance, Toboré Ogbuori a depuis lors cherché à venir en aide aux plus faibles.
C'est ce que j'ai décidé de faire pour le reste de ma vie, défendre les sans-voix avec le pouvoir de l'écriture, le journalisme d'investigation.
Voilà.
L'Organisation internationale pour les migrants estime que 80% des femmes arrivant en Europe en provenance du Nigeria sont des victimes potentielles du trafic sexuel. La meilleure amie de Tobori Ovori était l'une d'entre elles. Elle a succombé au sida après avoir été victime de la traite en Europe. En 2013, la journaliste décide de faire la lumière sur ce qui est arrivé à son amie et à beaucoup d'autres qu'elle connaissait. Elle se fait alors passer pour une prostituée et infiltre le milieu d'abord à Lagos, puis à Abuja et au Bénin. Elle sera témoin de la décapitation de deux victimes de cette traite, leur organe destiné ensuite au trafic. Une fois arrivée à Cotonou, elle a réussi à s'échapper. En dépit du traumatisme subi durant cette enquête, Tobori Ovuori reste plus que jamais engagée. En engagement et en courage qui lui ont valu le prix de la liberté d'expression cette année, le directeur général de la DW, Peter Limbourg.
Je pense que si quelqu'un se met en danger pour découvrir la vérité, alors cela vaut tout le respect. Je pense qu'il est important que nous renforcions personnellement la lauréate, car ces recherches difficiles l'ont exposée à des oppositions. Mais il s'agit aussi de renforcer le journalisme en Afrique dans son ensemble.
Depuis son enquête de 2013, Tobori Ovori a continué de traiter des sujets sensibles et dit n'avoir aucun regret sur son parcours.
Voilà, une journaliste engagée, une journaliste qui n'a pas peur. Merci, Carole Assignon.
Vous écoutez la DW.
Info matin, il est 7h16 en temps universel. La nouvelle a été rendue publique en fin de semaine dernière. L'Allemagne prévoit de restituer au Nigeria, à partir de 2022, l'année prochaine donc, les bronzes du Bénin, des sculptures pillées à l'époque coloniale.
Oui, cette annonce a été faite par Monica Grotas, qui est la secrétaire d'État à la culture. Une annonce qui a suscité bien sûr de nombreuses réactions. Écoutons celle du professeur et écrivain sénégalais Felwine Sarr. Il s'exprime micro de Wendy Bashi.
Je pense que la restitution des bronzes du Bénin par l'Allemagne est une excellente chose. Il y a quelques semaines déjà, ils étaient en discussion avec les autorités nigériennes. Je pense que déjà, c'est symbolique dans le sens où les bronzes du Bénin ont été pris lors du sac de Benin City en 1897. Donc, il n'y a aucun débat sur la légitimité d'une telle restitution. Donc, ces objets ont été pris violemment, donc sans le consentement de leurs ayants droit. Les bronzes du Bénin ont acquis ce que j'appellerais une charge oratique. Ils sont beaux, fins, ciselés. Et dans l'imaginaire occidental, ce sont des œuvres maîtresses. Donc, ils sont assez connus. L'essentiel des bronzes du Bénin se trouve en Angleterre, au British Museum. Et je crois que cette institution allemande va mettre la pression sur les autres musées du monde qui détiennent ces bronzes-là et qui seront dans un inconfort. Ils devront expliquer aux gens et aux usagers et à tout le monde pourquoi est-ce qu'ils les ont. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne résoudra pas la question en rendant les bronzes du Bénin. Une fois qu'on a rendu les bronzes du Bénin, la question se pose sur les autres œuvres d'art. Pourquoi est-ce qu'on les détient? Dans quelles conditions est-ce qu'elles ont été prises? Et je pense que c'est un mouvement qui sera tectonique, c'est-à-dire qu'il prendra le temps qu'il prend, mais qu'on ne peut pas le limiter et puis on ne peut pas lui fixer des limites.
Voilà l'écrivain sénégalais Felwine Sarr avec Wendy Bashi au sujet donc de l'annonce faite en fin de semaine dernière par la secrétaire d'État allemande à la culture par rapport donc à la restitution des œuvres d'art au Bénin. 16 soldats nigériens ont été tués et un autre est porté disparu à la suite d'une embuscade tendue, c'était samedi, par des hommes armés contre une patrouille de la garde nationale dans la zone de Tilia. Tilia, c'est dans la région de Tawa qui est située proche du Mali.
Mais le Niger où les groupes djihadistes pourraient exploiter le banditisme violent venu du Nigeria voisin et les tensions communautaires qui sévissent dans le sud-ouest du pays pour asseoir leur influence dans la zone. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport publié il y a quelques jours par l'International Crisis Group.
En effet, depuis quelques années, la région de Maradi qui fait frontière avec l'état de Zamfara au Nigeria subit des incursions régulières des gangs armés qui volent du bétail et enlèvent des personnes contre paiement de rançon. Alors, que pense-t-on là-bas de la possible installation d'un foyer djihadiste dans la zone? Voici des éléments de réponse à travers cette correspondance signée Ali Abdou, notre correspondant à Maradi.
Maradi, sanctuaire des bandits armés qui pourraient plus tard devenir terroristes. Pour nous, Jean Gorzo, enseignant, chercheur et spécialiste des questions de sécurité de la bande sud du Niger, ce n'est pas une simple hypothèse, mais une situation bien réelle.
Depuis fort longtemps, on sait qu'il y a une sorte de connexion qui se fait entre Boko Haram, qui sévit dans l'extrême est du Niger, nord-est du Nigeria, avec les bandits armés qui sont dans la bande sud de Maradi. C'est deux communautés complètement différentes, mais ils sont unis par une chose, la criminalité. Ils ont commencé à avoir des connexions entre eux parce qu'ils sont tous des criminels qui cherchent en fait à utiliser comme prétexte la religion ou bien l'appartenance ethnique pour atteindre des objectifs financiers, mais aussi des objectifs politiques, parce qu'ils sont en train de chasser la population autochtone pour s'installer eux.
Youssouf Ladan est vice-maire de la commune de Tibiri-Gobir. Plusieurs villages de sa commune sont victimes de ce banditisme. Il pense que la situation est devenue incontrôlable pour les gouvernements nigériens et nigériens.
Ces populations-là, même celles qui ont accueilli les réfugiés, sont en train d'être incapables d'exploiter leurs champs. Donc cette situation a amené une pauvreté généralisée. Parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas le pouvoir d'exploiter la terre. Les animaux qu'on élève ont été enlevés. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Pour les spécialistes, nous, Jean Gorzo, l'installation d'un troisième foyer terroriste au Niger sera un coup dur pour toute la région.
Vu la démographie de la région de Maradi, vu la densité de la population de la région de Maradi, vu la connexion avec le Nigeria et vu le paysage écologique, on est dans une zone un peu forestière. Si le tourisme s'installe dans cette bande-là, ça va être extrêmement grave pour le Niger et ça va être très préjudiciable à la sécurité nationale et ça va être très préjudiciable à la cohésion sociale de notre région.
Ali Abdou, à Maradi pour la Deutsche Welle.
Sans transition, on retrouve Sandrine Blanchard et l'extrait de son magazine « Droits et libertés ».
Cette semaine dans Droits et Libertés, nous parlons d'une figure pour le moins atypique de l'histoire politique allemande. Une femme née en Pologne, juive, marxiste, handicapée, révolutionnaire. Elle a été assassinée à cause de ses idées qui dérangeaient en 1919. Cette année, Rosa Luxembourg aurait eu 150
ans. Dans son accumulation du capital, elle explique que le capitalisme vise toujours à s'accaparer de nouveaux territoires dans le monde entier. Et dans cet ouvrage, elle démontre que cette idéologie aboutit à des guerres, à la soumission de peuples et à leur oppression, à l'exploitation et au pillage de formes d'économie locale et à la destruction de la nature.
Retrouvez Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.
DW. Le sport. Ali Fahad.
Alors Ali, on disputait en Allemagne les demi-finales de la Coupe. Sans grande surprise, l'affiche du 13 mai prochain va opposer le Borussia Dortmund au RB Leipzig.
Il n'y a pas vraiment eu de match samedi soir à Dortmund. Face au Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division qui avait réussi à faire tomber le Bayern lors du deuxième tour, le Borussia a été sans pitié. Un doublé de Giovanni Reina ainsi que des buts de Marco Reus, Thorgan Hazard et Jude Bellingham ont permis au BVB d'avoir une avance de 5 buts à la mi-temps. 5-0, ce sera d'ailleurs le score final. Pour le capitaine Marco Reus, ce succès permet au Borussia Dortmund de continuer à croire en ses objectifs de fin de saison.
Comme je l'ai très souvent dit ces derniers temps, il ne nous reste plus grand-chose à faire à part gagner toutes les rencontres qu'il nous reste à disputer. Cela nous permettrait éventuellement d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine et de ramener la Coupe d'Allemagne à Dortmund. Nous sommes sur une bonne série, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons continuer à travailler dur et on tirera le bilan en fin de saison. En finale, le Borussia Dortmund sera opposé au RB Leipzig qui a dû attendre les ultimes instants de la prolongation pour s'imposer 2-1 sur la pelouse du Werder Bremen vendredi soir grâce à un but acrobatique signé Emil Forsberg. L'entraîneur Julian Nagelsmann, qui quittera le RB en fin de saison pour rejoindre le Bayern Munich, a donc la possibilité de remporter un trophée avant de quitter Leipzig. C'est en tout cas ce que souhaite son patron, Oliver Minzlaff.
Ja, ich habe mir gesagt,
J'ai dit à Julian qu'on le laissait partir pour le Bayern Munich, mais qu'avant ça, il devait ramener un titre ici. La pression est grande, il le sait, mais il a parfaitement réussi à gérer cela en se qualifiant pour la finale. Nous allons maintenant nous concentrer sur notre match de Bundesliga et puis nous nous focaliserons sur la finale à Berlin. Le hasard fait bien les choses, puisqu'avant de se retrouver le 13 mai prochain dans la capitale allemande pour la finale de cette 78e édition de la Coupe d'Allemagne, Dortmund et Leipzig se retrouveront une première fois samedi 8 mai dans le cadre de la 32e journée de Bundesliga. Si Leipzig rêve de conquérir le premier trophée de son histoire après avoir échoué en finale de Coupe d'Allemagne en 2019 face au Bayern Munich, le Borussia Dortmund, lui, fera tout pour remporter la 5e DFB-Pokal de son histoire, la première depuis 2017. Si sur le plan sportif, l'actualité en Allemagne de ce week-end était focalisée sur ces demi-finales de coupe, elles ont été éclipsées par une affaire judiciaire, du moins par les réactions qui ont suivi. Jeudi dernier, l'ancien international allemand Christoph Metzelder a écopé de 10 mois de prison avec sursis pour la diffusion d'images pédopornographiques, diffusion qu'il a avouée. J'accepte la sanction et demande pardon aux victimes de violences sexuelles. Je vais devoir vivre le reste de ma vie avec cette culpabilité, avait déclaré avant le jugement l'ancien joueur du Borussia Dortmund et du Real Madrid, qui risquait jusqu'à 5 ans de prison. Sur son téléphone portable, les enquêteurs avaient trouvé 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants ou des adolescents. Une sentence qui a suscité la colère d'anciens coéquipiers de Metzelder. « C'est répugnant », a commenté Lukas Podolski sur les réseaux sociaux. « Je ne comprends pas cette sentence de 10 mois avec sursis. Une telle chose devrait normalement être punie plus sévèrement. Une confession partielle ne devrait pas être une décharge quand il s'agit de pornographie infantile », a déclaré l'ancien joueur de la Mannschaft. Même réaction du côté de Mario Götze, qui ne comprend pas cette peine aussi clémente pour un délit aussi grave. Quand de jeunes enfants et leurs familles sont blessés pour le reste de leur vie, ces actes méprisables doivent être punis beaucoup plus sévèrement, a estimé le champion du monde 2014. Enfin, Max Kruse, l'attaquant de l'Union Berlin, a lui aussi fait part de son incompréhension face à un tel jugement. « Il faut faire du bruit pour que les choses changent, pour que les politiques changent les lois. J'ai moi-même un enfant et je ne veux pas imaginer comment je réagirais s'il lui était arrivé la même chose », a déclaré Kruse sur la plateforme de streaming Twitch.
Et puis en Argentine, Diego Maradona aurait été abandonné à son sort par l'équipe qui le soignait peu avant sa mort et le traitement prodigué aurait conduit à une lente agonie. C'est en tout cas ce qu'a fustigé un rapport d'experts rendu public vendredi dernier.
Dans un document de 70 pages, la commission médicale chargée d'enquêter à la demande de la justice sur les dernières heures de la star argentine a déterminé que Maradona a commencé à mourir au moins 12 heures avant d'être retrouvé sans vie et a enduré une période d'agonie prolongée. Ce sont les déclarations de deux des cinq filles de Maradona, Janina et Yana, qui pointaient le neurochirurgien Leopoldo Luque comme responsable de la détérioration de l'état de santé de leur père, qui avait déclenché la procédure judiciaire. Leopoldo Luque a été mis en examen, ainsi que six autres personnes, parmi lesquelles la psychiatre Agustina Kosachov, un psychologue et deux infirmiers. Pour Oscar, un fan de Maradona, il est temps que justice soit faite. L'équipe qui était censée s'occuper de Maradona quand il était souffrant n'était pas là pour le soigner, elle était là dans son propre intérêt. Ce sont des gens qui voulaient lui soutirer de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé si longtemps sous médicaments? Parce qu'ils voulaient lui prendre de l'argent. Que justice soit faite maintenant, et s'ils doivent payer, ils payeront. En Argentine, les peines pour abandon par négligence ou homicide involontaire vont de 5 à 15 années de prison. Sinon, en basketball, sachez que le tirage au sort des poules de la première édition de la Basketball Africa League a eu lieu hier. Dans le groupe A, l'équipe malgache de la GNBC sera aux prises avec le club tunisien de l'US Monastir, les Nigérians de Rivers Hoopers et l'équipe rwandaise des Patriots. Le groupe B, lui, sera composé des Maliens de l'AS Police, des Camerounais du FAP, des Marocains de l'AS Salé et des Angolais du Petro de Luanda. Enfin, dans le groupe C, le club sénégalais de l'AS Douane a été placé en compagnie du club mozambicain du Ferrovario de Maputo, des Égyptiens du Zamalek et des Algériens du GS Pétrolier. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les meilleurs deuxièmes iront en quart de finale. La première édition de la Basketball Africa League se déroulera du 16 au 30 mai prochain à Kigali, au Rwanda.
Voilà, Sandrine Blanchard, on s'achemine tout doucement vers la fin d'InfoMatin, l'actualité en deux ou trois titres.
Eh bien, l'actualité, c'est d'abord le Tchad où l'Union africaine poursuit sa médiation et la composition du gouvernement de transition conduit par Albert Pahimi Padake a été connue. Un gouvernement auquel participent plusieurs partis d'opposition, dont celui de Salé Kebzabo, mais pas celui des transformateurs conduit par Succès Masra. Et puis enfin, félicitations à Tobor Ouvouori. Cette journaliste nigériane est la lauréate 2021 du prix de la Deutsche Welle pour la liberté d'expression.
Merci beaucoup Sandrine Blanchard. J'ai pas le temps malheureusement de dire mon proverbe du jour, ce sera peut-être demain puisque je serai là demain dès 7h en temps universel pour une nouvelle édition d'Info Matin. Sandrine Blanchard et Eric Topounan vous renouvellent nos remerciements et on vous souhaite de passer une excellente journée.
Tchuss.